Si l'on veut résumer le circuit complet d'une fugue d'école, on trouve les étapes suivantes dans l'ordre prévu par le code de la route. Exposition au ton principal, où le sujet et, s'il y a lieu, le contre-sujet font leur entrée dans chaque voie. Premier divertissement ou développement en contrepoint libre. Exposition au ton relatif. Deuxième divertissement. Exposition au ton de la sous-dominante. Troisième divertissement. Repos à la dominante. Strette, c'est-à-dire série d'entrées canoniques serrées. Et enfin, conclusion. Ce circuit organisé n'a rien d'obligatoire. Le plan de la fugue n'est ni un carcan, ni une camisole de force. Il est seulement recommandé aux apprentis. Le compositeur, bien maître de sa technique, peut donner l'importance qu'il veut à telle ou telle partie, supprimer telle ou telle étape, ou au contraire, en ajouter d'autres. Encore faut-il que le circuit imaginé soit intéressant et logique. Il s'agit, ne l'oublions pas, d'une construction artistique et non d'un édifice préfabriqué. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la fugue n'est qu'une forme raffinée de développement, de variation. C'est un système qui permet d'exploiter à fond les possibilités de combinaison polyphonique d'un thème unique, choisi pour sa beauté et pour sa fertilité contrapuntique. Outre le canon et l'imitation, le fuguiste dispose de tout un arsenal de procédés qui l'aideront à introduire dans son contrepoint des formules mélodiques apparemment nouvelles, mais en réalité issues elles-mêmes du sujet ou du contre-sujet. Évoquons quelques-uns de ces procédés. On peut augmenter les durées de chacune des notes du sujet. C'est le procédé de l'augmentation qui est comme un agrandissement photographique du thème. Voici par exemple un passage d'une fugue de Bach où la forme normale du sujet est combinée à deux autres formes dont la plus aiguë est précisément l'augmentation de ce sujet. Le procédé inverse, la diminution, consiste à raccourcir la durée de chaque note d'une manière également uniforme, comme une réduction photographique. Le sujet peut donc être étiré par l'augmentation ou comprimé par la diminution. Mais on peut aussi le renverser de diverses manières. Présenter le sujet par mouvement contraire consistera à remplacer chaque mouvement montant par un mouvement descendant et chaque descente par une montée, en conservant une suite d'intervalles rigoureusement identiques, quoique renversés. Le thème de notre fugue étant celui-ci en mouvement droit ou normal, le mouvement contraire de tous ces intervalles lui donne l'aspect suivant. Bach a usé constamment de ce procédé dans l'art de la fugue. Ainsi, la fugue numéro 5 fait d'abord entendre le sujet en mouvement contraire. Et avant même qu'il soit fini, la forme normale fait son entrée à la basse puis tout en haut. Dans le mouvement contraire, le sujet est donc renversé verticalement de haut en bas. Il marche sur la tête, en quelque sorte. Si maintenant on imagine de faire marcher le sujet à reculons, on obtient ce que les musiciens appellent le mouvement rétrograde ou récurrent. On entend alors le sujet à rebours, en commençant par la dernière note pour finir par la première. Le sujet de notre fugue en sol mineur envisagé de cette façon à rebours, deviendrait ceci. Rien ne nous empêche d'ailleurs de prendre à rebours aussi bien le sujet ordinaire que son mouvement contraire. Dans ce dernier cas, le sujet ne marche pas seulement sur la tête, il marche de plus à reculons. Ce qui nous donne au total quatre postures différentes pour ce sujet. Il marche sur ses pieds et en avant, c'est la forme normale, mouvement droit. Il marche sur les pieds mais à reculons, c'est la forme rétrograde. Il marche sur la tête et en avant, c'est le mouvement contraire. Il marche sur la tête et à reculons, c'est la forme rétrograde du mouvement contraire. Il est évident que le compositeur ne choisira telle ou telle forme que si elle lui semble belle, par elle-même et dans ses diverses combinaisons avec les autres formes. Malgré tous ces procédés, la liberté est de rigueur, car il s'agit dans la fugue de parvenir à la beauté par les moyens de la science. Ce que nous retiendrons, c'est qu'il y a une logique profondément harmonieuse dans toute fugue belle, une logique musicale et, par conséquent, humaine. Même si les procédés de construction de la fugue relèvent d'une technique très savante, l'instinct musical et l'inspiration y ont leur mot à dire. Il faut d'abord choisir pour sujet un beau thème. Il faut ensuite, dans la foule des combinaisons possibles, retenir les plus séduisantes, les plus heureuses. Il faut varier le nombre des voix qui dialoguent et donner l'impression que le développement de la fugue se déroule comme la croissance naturelle d'un bel être vivant. Autant qu'une science très grande, il faut donc un instinct très sûr pour écrire une fugue qui soit à la fois intéressante aux yeux des techniciens et agréable aux oreilles et au cœur des amateurs. Si l'on admire Bach, c'est parce que cet extraordinaire technicien a su rester un extraordinaire musicien. Les 48 fugues du clavecin bien tempéré sont aujourd'hui plus que jamais l'aliment des pianistes et des compositeurs, ou comme disait Robert Schumann, leur pain quotidien. Le constater, c'est reconnaître que la fugue n'est pas seulement un jeu de mots croisés, mais bien l'une des plus belles et des plus hautes d'entre les formes musicales.